Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour partager une tasse de thé avec Janine Rogers à la technique Simon Martin. Anita Bruckner est née à Londres en 1928. Elle y est décédée en 2016. Elle était la fille unique d'un père juif polonais qui avait recueilli des réfugiés juifs fuyant le nazisme. Elle n'a jamais rien laissé filtrer de sa vie privée. Toute sa vie, elle resta une femme discrète, vivant seule, s'occupant de ses parents dans leur vieillesse. On sait qu'elle est restée célibataire et disait que ses livres étaient ses enfants. Elle disait aussi « Bien que née en Angleterre, je ne m'y suis jamais sentie tout à fait comme chez moi. Les gens disent que je suis sérieuse et déprimante. » Anita a mené une double carrière. Toute la première partie de sa vie fut consacrée à l'art qu'elle étudia à l'université, y obtenant un doctorat en histoire de l'art. Puis elle devint professeure section Beaux-Arts à l'Institut Courtauld de Londres. En même temps, elle publia des ouvrages sur l'histoire de la peinture française des 18e et 19e siècles, notamment sur Watteau, David, Greuze, écrits qui sont encore à l'heure actuelle des références. Puis à 53 ans, elle publie son premier roman, La vie quelque part. Il sera suivi de nombreux autres, notamment en 1984, L'hôtel du lac, en 87, Une amie d'Angleterre, en 89, Lewis Percy, pour ne citer que cela. Ces personnages, en majorité féminins, mènent ce qu'elle a appelé une vie décevante. Elle est la romancière de la solitude. Elle a dit d'elle-même « Je suis une pauvre et malheureuse créature qui écrit sur des femmes malheureuses. » Son roman le plus connu est « Hôtel du lac » pour lequel elle obtint le Booker Prize et dont elle s'excusa en disant que son livre était gentil, mais sans importance. Le roman raconte un moment de la vie d'Edith Hope, romancière, qui s'est retirée à l'hôtel du lac, en bordure du lac Léman. Elle a dû quitter Londres, car il y a créé un scandale et choqué publiquement la bonne société anglaise. Pendant son séjour, elle n'arrive pas à continuer à écrire le roman qu'elle a en cours, trop occupée à observer, à écouter les autres pensionnaires de l'hôtel et le personnel. Dans ce microcosme qu'est l'hôtel, elle ne manque pas de sujets d'observation. Il y a Monica, l'anorexique, et son chien qu'elle garde sur ses genoux pendant les repas pour lui donner les aliments dont elle ne veut pas. Madame Bonneuil, qui n'arrête pas de faire le récit de ses malheurs. Mrs. Pussy et sa fille Jennifer, très fusionnelles, cette dernière, sur ordre de sa mère, doit distraire Edith, ce qu'elle n'arrivera pas à faire. Et surtout, M. Neville, le séducteur. Tous sont des gens bizarres. C'est un roman sentimental écrit dans un style simple et clair qui convient à l'atmosphère mélancolique de l'hôtel. L'humour y a sa place, comme lorsque M. Neville fait une demande en mariage peu conventionnelle. Ils sont ensemble dans un restaurant et je cite. M. Neville se redressa et mit les mains sur la table. Il parut brusquement à Edith un peu plus jeune, un peu moins réservé que d'habitude. Jusque-là, il n'avait été pour elle qu'un homme dans la cinquantaine, riche, blasé, prudent, oisif, séduisant par sa froideur même, le genre d'homme à attacher beaucoup d'importance à son train de vie, à tourner son appétence vers quelques tocades anodines, comme une collection de gravures à la pointe sèche ou la reconstitution de son arbre généalogique. « Je pense que vous devriez m'épouser, Edith, » déclara-t-il soudain. Écarquillant des yeux incrédules, elle le regarda avec stupéfaction. « Permettez-moi de m'expliquer, » reprit-il hâtivement en retrouvant son sang-froid. « Je ne suis pas un gamin romanesque. Je suis au contraire quelqu'un de circonspect. J'ai quelques terres et une très belle maison, un véritable chef-d'œuvre d'architecture romantique. J'ai aussi une collection assez estimable de familles roses, des porcelaines. Je suis sûre que vous adorez les belles choses. Vous vous trompez, dit-elle sèchement. Je n'adore pas du tout les choses. Je possède de gros intérêts à l'étranger, poursuivit-il en négligeant son interruption. Et j'aime recevoir. Je m'absente une bonne partie du temps. Mais je déteste rentrer dans une maison où ne vit à longueur d'année qu'un couple de domestiques. Ce cadre-là vous irait à merveille. Il s'établit entre eux un terrible silence. Edith concentra son attention sur la feuille de l'addition qui était à demi coincée sous un cendrier et que le vent agitait. Quand elle rouvrit la bouche, sa voix était mal assurée. « À vous entendre, dit-elle, on croirait que vous stipulez les avantages d'un contrat de travail. Mais je ne suis pas demandeuse d'emploi. » « Quelle autre perspective avez-vous donc, Edith ? Tenez-vous à rentrer dans une maison vide, vous aussi ?»« Que ferai-je donc dans votre belle maison ?» lui répliqua-t-elle. « Et quand vous serez là ?» ajouta-t-elle mentalement, sans oser l'exprimer à haute voix. « Tout ce que vous accomplissez actuellement, lui répondit-il, mais en beaucoup mieux. Vous écririez si vous y tenez. » En fait, vous serez peut-être capable de mieux écrire que vous ne l'avez jamais espéré. Edith Neuville, voilà un bon nom d'auteur. Vous aurez enfin la position sociale dont vous avez besoin. Vous prendrez de l'assurance, vous deviendrez une femme du monde et vous aurez la satisfaction de me faire honneur. Vous n'êtes pas le genre de femme dont les hommes doivent se garder. Une de ces hystériques qui se croient constamment objets de désirs ou de scandales, qui se vantent de leurs conquêtes et de leurs succès, et qui estiment pouvoir faire n'importe quoi du moment qu'elles savent recevoir et respectent au minimum les conventions vis-à-vis de leur mari. Vous me faites vraiment trop d'honneur en supposant que je suis cette femme-là. Je vous fais l'honneur de supposer que vous connaissez la différence entre passade et fidélité. L'honneur de supposer que vous vous permettrez jamais une de ces imprudences lamentables qui jettent le discrédit sur un mari. L'honneur de croire que vous ne me ferez pas honte, que vous ne me ridiculiserez pas, que vous ne me blesserez pas dans mes sentiments. Savez-vous à quel point c'est pénible pour un homme d'admettre qu'une femme le fait souffrir ? Mais l'autre jour, vous prêchiez l'égoïsme, ou plutôt l'égocentrisme. « Le partenaire peut-il y trouver son compte ?» dit-elle. « Bien plus facilement que vous ne le pensez. Je ne vous demande pas de renoncer à tout par amour, mais de reconnaître où se trouve votre véritable intérêt personnel. Ce que je suis en train de vous dire et que vous avez peut-être déjà soupçonné, c'est que l'effacement et le mérite ne sont pas des atouts dans la vie. Ce que je vous propose, c'est une association au plus haut niveau, fondée sur l'estime mutuelle, si vous préférez, et tout à fait passée de mode, entre parenthèses. Si vous désirez prendre un amant, ce sera votre problème, aussi longtemps que vous saurez vous conduire d'une manière civilisée. Et si vous, dit-elle, ce qui est valable pour l'un l'est pour l'autre, évidemment. Pour moi, désormais, il ne pourrait s'agir que de distractions sans importance, dont vous ne sauriez rien, ou dont vous n'auriez pas à vous préoccuper. Notre union serait établie sur l'intérêt partagé et la confiance en l'autre, sur la camaraderie. À mes yeux, c'est ce qui compte le plus maintenant, et ce qui pourrait aussi compter pour vous. Réfléchissez, Edith. N'avez-vous pas, à un moment ou à un autre de votre petite vie convenable, désiré vous révolter ? N'en avez-vous pas eu assez de vous montrer courtoise envers des gens grossiers ? Edith acquiesça. Vous aurez toute possibilité de recevoir vos amis, bien entendu, et vous vous apercevrez qu'ils ne vous traitent plus de la même façon. Ça vous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Vous découvrirez que vous pouvez vous conduire aussi mal qu'il vous plaira et aussi mal que les autres pourront le souhaiter. Le monde est ainsi fait, il vous en saura gré. Vous mettrez enfin les gens à l'aise. « La solitude vous pèse, Edith. » Après un long silence, elle releva les yeux. « Il commence à faire froid, dit-elle. Rentrons, voulez-vous ?» Après cette déconcertante demande en mariage, Edith va-t-elle ou non épouser M. Neuville? À vous de le découvrir. Et dans une prochaine émission, nous nous pencherons sur les écrivaines du crime, les romancières des romans policiers.